La première lecture est dans le livre de Daniel, au chapitre 12, les versets 1 à 3. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront eu du discernement brilleront, comme brille la voûte céleste, ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme des étoiles, pour toujours, à jamais. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 13, les versets 24 à 32. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors, il enverra les anges et rassemblera des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Notre époque a des résonances apocalyptiques. Guerre, persécution, catastrophes naturelles et dérèglements climatiques. Alors malgré l'écart temporel et culturel, un tel texte peut rejoindre notre actualité. En effet, dans la souffrance présente et dans l'angoisse de l'avenir, il nous invite au courage et à la vigilance du veilleur. Dans notre attente, il nous appelle à l'espérance et nous annonce la venue prochaine du Christ. Et en même temps, ce texte nous déroute a priori, parce qu'il est écrit dans un genre littéraire apocalyptique qui nous est largement étranger. Apparemment mythique ou fantastique, le sens littéral ne fait guère de sens pour nous, et le sens figuré nous échappe à cause des références et des symboles qu'il présuppose. Alors, je vous convie à une petite enquête pour mieux déchiffrer les possibilités de sens. Premier point, les étoiles tomberont du ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Examinons d'abord le sens littéral. D'un point de vue scientifique, le soleil n'est pas éternel. L'intuition biblique est bonne, en ce sens, et la science donne tort à ceux qui adoraient l'astre solaire. Ce n'est qu'une créature et une créature mortelle. Quand le soleil aura consommé tout son hydrogène, dans la réaction nucléaire qui le fusionne en hélium, il explosera en géante rouge, puis s'effondrera et s'éteindra pour devenir une naine blanche. Mais nous avons encore au moins 5 milliards d'années avant que cela n'arrive. Donc, une datation est possible, mais elle est tout sauf proche. Alors l'Évangile, au contraire, dit qu'on ne peut pas connaître la date, mais que c'est proche. Donc il s'agit peut-être d'autre chose à chercher, autre chose que ce sens simplement scientifique sur le soleil. Notons que le début du chapitre évoque des signes tout à fait terrestres et que nous connaissons au présent des imposteurs, des guerres, des rumeurs de guerre, des séismes, des famines, des procès, des mises à mort. Mais ici, nous sommes entrés dans le domaine céleste, qui marque une intensification jusqu'à l'extrême, à un degré jamais vu, et qui suggère la fin du monde. Peut-être la fin du monde pour une transformation du monde vers un nouveau monde aussi. Mais même le plus stable, même l'immuable, qui étaient les astres, s'effondre. Et la situation est la plus grave que nous puissions imaginer. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Nous pouvons penser à des puissances spirituelles. L'astrologie et les divinités païennes chutent, tout ce qui était fondé sur le culte des astres. Satan chute, car Jésus dit, selon Luc, « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et nous pouvons élargir aussi aux puissances humaines. Les étoiles peuvent symboliser les stars, les rois, ceux qui ont le pouvoir. On trouve ça, par exemple, chez le prophète Ésaïe, qui prophétise au roi de Babylone. « Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. » Voilà le roi de Babylone qui voulait monter plus haut que les étoiles et qui chute. Et cette chute des puissances d'oppression est une bonne nouvelle. Et puis on pourrait imaginer que de nouvelles étoiles se lèvent. Et ce sont les croyants. Déjà avec Abraham, il y avait cette promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et dans le passage de Daniel que nous avons entendu, il est annoncé, le verset suivant, « Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles, pour toujours, à jamais. » Donc il nous compare à des étoiles, de nouvelles étoiles sans doute pour remplacer celles qui sont tombées. Et tout cela évoque aussi, dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur, un jour de justice pour le salut des vivants et des morts. Le salut des vivants, c'est dire que Dieu nous fait entrer dès aujourd'hui dans la vie abondante, en plénitude, la vie éternelle. Mais si ça va plus loin, avec un salut même pour les morts, et c'est ça aussi la justice de Dieu, de rendre justice à tous les martyrs ou à tous ceux qui ont eu leur vie écourtée, qui sont partis prématurément. Eh bien, pour eux, il y aura quelque chose qui va continuer après la mort. Sinon, ce serait trop injuste. Dieu veut la vie pour tous, pas seulement la survie du peuple en général par une descendance, mais la vie en abondance, et même au-delà de la mort. Et c'est pour ça que le salut pour les morts est extraordinaire. Il dépasse le seul salut des vivants, c'est la résurrection. Précisément, notre texte de Marc 13 est placé juste avant le récit de la passion et de la résurrection du Christ. Et on peut y voir un parallèle avec le passage que nous avons lu. Comme une liste des souffrances de l'humanité qui seront récapitulées et condensées dans les souffrances du Christ. Et elles seront traversées. comme les douleurs de l'accouchement, pour arriver à la joie de la naissance, à l'éveil, à la résurrection. On trouve au chapitre 15 de l'évangile de Marc, à la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, à l'heure de la mort de Jésus. Comme les ténèbres qu'on voit aussi dans ce passage. Mais aussi chez Ésaïe, chapitre 9, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voilà la lumière qui perce les nuages. Je crois que c'est vraiment le message de cette petite apocalypse et aussi de la grande apocalypse de Jean, qui parle de beaucoup de malheurs, parce que parfois la vie est faite de malheurs et on est dans des situations où on ne voit que le malheur, mais avec l'annonce de Dieu qui va traverser ces malheurs et apporter la lumière à travers tous ces nuages. L'idée des étoiles tombant du ciel n'est pas nouvelle de la part de Jésus. En fait, ce paragraphe est entièrement composé de citations d'Ésaïe, de Daniel, de Joël. Il emprunte aussi beaucoup à l'Apocalypse apocryphe de la Septante dans 4 Esdras. Voilà, un texte qui n'est pas dans nos Bibles habituellement, mais qui est reconnu par les orthodoxes. Et c'est un livre étrange, parce que vraiment apocalyptique, mais aussi résolument messianique. En effet, mon fils, le Messie, sera révélé avec ceux qui sont avec lui, et il réjouira ceux qui ont été laissés durant 400 ans. Et donc, il faut voir que dans la culture juive, ce moment où les étoiles tombent du ciel, c'est aussi le moment de l'annonce du Messie qui va venir. Et c'est là, donc, dans ce contexte apocalyptique, au cœur des tragédies, que Jésus révèle qu'il est lui-même le Fils de l'homme, évoqué par Daniel, le Messie Fils de Dieu, attendu. Il apparaît au plus atroce de la souffrance humaine, quand la terre vacille, quand le monde s'effondre autour de nous, quand le ciel nous tombe sur la tête. Et là, on peut le lire pour l'ensemble de l'humanité et l'avenir du monde, mais on peut le lire aussi dans notre propre vie, quand nous nous sentons dans la détresse, dans l'obscurité, dans la ténèbre, quand tout s'effondre, alors Jésus arrive, Jésus est proche. Il ne nous abandonne pas. Et la parabole du figuier, que signifie-t-elle? Le figuier, c'est l'être humain. Adam et Ève se sont cousus des feuilles de figuier avant que Dieu leur donne des tuniques de peau, des feuilles de figuier. Ils sont comme des figuiers avec seulement des feuilles et pas de figues. Et au chapitre 11 de Marc, donc deux chapitres avant, Jésus rencontre un figuier. Et Jésus dit au figuier qui n'a que des feuilles que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Il y a donc ce point de départ du figuier stérile ou desséché, du figuier qui ne porte pas de fruits. Il peut faire penser aussi à l'être humain, Adam et Ève, qui a mangé le fruit de l'arbre et qui lui-même ne porte pas de fruits. Car ce n'est pas la saison, c'est l'hiver. C'est le temps de la froideur et des persécutions. Or ici, l'image est inversée. Le figuier qui semblait mort bourgeonne et fait éclore de jeunes feuilles. La saison de l'été approche. C'est le temps favorable. C'est le moment de la venue du Christ. La vie renaît. L'attente de ce printemps, de cet été qui arrive, nous aide aussi à traverser les difficultés de l'hiver ou l'hiver spirituel. Le figuier est aussi un arbre qui pousse de façon rapide et généreuse. S'il a assez d'eau, de chaleur et de soleil, en quelques semaines, de grandes feuilles se développent. Mais il peut sécher aussi très vite, tellement il a besoin d'eau. Nous avons besoin de la bonne saison du Christ, de son eau vive et de son nouveau soleil. Et alors nous pouvons pousser aussi généreusement, de façon aussi foisonnante que le figuier et porter du fruit. Jésus nous fait voir au-delà de la sécheresse et du froid intérieur. Il nous promet un printemps et un été spirituel. Une terre nouvelle, comme au jour de la création, avec le paradis qui est donné comme image du jardin d'Éden, d'un jardin. C'est-à-dire le lieu où la vie se développe en abondance, en liberté. Et cette espérance suffit. On pense qu'il y avait peut-être une version primitive de l'évangile de Marc qui s'arrêtait là. À ce moment-là, elle racontait, dans tous les chapitres qui précédaient, tout ce que Jésus a fait dans sa vie, et puis ça se finissait par ce chapitre 13 qui s'ouvrait sur l'espérance imminente de son avènement, qui ouvrait vers l'avenir, sa venue sur les nuées. Et les nuées symbolisent la présence de Dieu, de même que la nuée allait remplir la tente de la rencontre. C'est Dieu qui accompagne son peuple. Que Dieu fasse de nous ces nouvelles étoiles scintillant de lumière. Qu'il fasse de nous ce figuier renaissant au printemps, florissant et fructifiant. Seigneur Jésus, viens à tout moment, quand nous ne nous y attendons pas, viens combler notre attente aussi et surprends-nous dans l'inattendu. Amen.